Europe 1.
Allez, à 5h16, c'est parti pour le pressing du jour avec Ombline Roche et Martin Lange. On commence par jeter un œil aux unes de vos journaux. Et cette fois, il se prépare. Il y a à la une d'aujourd'hui en France une belle image de terrasse ensoleillée avec des chaises et des tables qui n'attendent que les clients. Les restaurateurs espèrent une réouverture dans un mois maintenant, mais les défis sont immenses, raconte le journal. Autre image qui nous projette vers l'été, celle d'un plongeon à la une de la Provence, le boom des piscines. 70 000 Français en ont installé une chez eux l'année passée. Pendant ce temps, la pression ne baisse pas sur l'hôpital. La Dépêche du Midi titre sur le malaise des soignants. Le Télégramme sur l'année éprouvante. Et Libération donne la parole à ces patients dont les opérations ont été déprogrammées. La Charente Libre raconte un confinement élastique où la souplesse des mesures permet, dit ce journal, de faire beaucoup de choses, parfois en trichant un peu. Et La Voix du Nord soulève la question du bac. Le grand flou est à la une. Enfin, vous lirez dans le Figaro cette interview, donc on vous en parlait dès 5h, d'Emmanuel Macron consacré à la sécurité, avec cette citation à la une: « Je me bats pour le droit à la vie paisible ». Le président sera à Montpellier aujourd'hui pour annoncer des renforts. Et c'est aussi à la une de Midi Libre. Voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin et on commence en voiture avec vous, Ombline.
Notre voiture qui nous connaît bien et elle nous connaît de plus en plus, hein, bardée de capteurs, la vitesse, la température, capteurs sur les pare-chocs, elle est Bluetooth maintenant pour que nous puissions connecter notre téléphone. Les voitures à leur tour emmagasinent de plus en plus d'informations et la question des données personnelles se pose et va surtout se poser. C'est Libération qui en parle ce matin. Aujourd'hui, l'analyse des pièces comme les pneus permet d'affiner la conception des véhicules et améliorer la maintenance, mais certaines informations ont un caractère bien plus privé, comme la position de la voiture, l'historique de la navigation, les images des caméras, ce que vous avez écouté, via quelle plateforme de streaming. Les constructeurs ne peuvent pas utiliser ces données aujourd'hui. Non, mais ces informations valent de l'or et les constructeurs pourraient bien se laisser tenter de les vendre à des entreprises dans un but publicitaire ou pour développer de nouveaux produits. Ce qui vous protège encore aujourd'hui, c'est votre consentement. On ne peut rien faire sans. Mais on s'approche franchement du point de bascule. Libé revient sur le partenariat.
On va pas se mentir, des fois on clique accepter et on lit pas vraiment
c'est
ce qu'on accepte.
C'est exactement ça. Et surtout au début, lorsque vous achetez une voiture, vous acceptez les conditions d'utilisation. Et donc après, ça vous ouais. avez tout accordé en fait. Et donc Libé revient sur le partenariat signé entre le constructeur PSA et IBM, société experte en analyse de données. Et bien, les deux entreprises proposent à des villes des études détaillées sur la circulation à des endroits précis, sur les itinéraires empruntés. Alors bien sûr, les données récoltées sont rendues anonymes, mais le problème, c'est le manque d'informations des conducteurs. Et puis il semble qu'on va difficilement pouvoir échapper dans un futur proche à la boîte noire, comme celle d'un avion, un boîtier intelligent qui pourrait enregistrer des données d'événements sur les automobiles. Aujourd'hui déjà, un boîtier intelligent est proposé par des compagnies d'assurance pour évaluer la conduite du conducteur, adapter les tarifs.
Pour payer moins cher.
Exactement. Ouais. Sauf que le risque, c'est que les compagnies refusent ensuite d'assurer. Oui, et les assurances refusent de vous assurer si vous n'avez pas de boîtier. Les voitures non équipées, ça c'est le risque. Si vous n'avez pas de boîte noire, on ne vous assure pas. Suivi à la trace dans votre voiture, que va-t-il advenir de nos données personnelles? C'est dans Libération.
Et puis surtout que maintenant dans les voitures, les Apple, Google et autres entrent dans les tableaux de bord. C'est directement accessible. Donc forcément, on sait...
Donc où va-t-on
On ne sait pas s'en tenir.
Soyons et restons prudents.
Merci, c'est donc à lire dans
Libération
ce matin. Moi je vous emmène en Nouvelle-Zélande. On apprend sur le site du figaro.fr, qui reprend une info du Guardian anglais, que le pays veut devenir la première nation sans tabac. Objectif posé pour 2025. La Nouvelle-Zélande songe à tout simplement interdire le tabac à toute personne née après 2004.
D'accord.
C'est la génération qui entre dans l'âge adulte. Première mesure d'une série de propositions évoquées par le gouvernement qui envisage d'augmenter aussi progressivement l'âge légal pour fumer, pour aboutir à une interdiction totale de la vente des cigarettes. Et d'ici là, réduction significative du niveau de nicotine autorisé, interdiction des filtres, augmentation des prix, limitation des lieux de vente. Voilà, c'est vraiment une offensive sur la cigarette. En Nouvelle-Zélande, le tabac est responsable d'un décès par cancer sur 4. Et les effets sont particulièrement dramatiques sur les populations maoris. Les femmes, notamment, ont des taux de tabagisme très élevés et d'aime dans les milieux populaires. Alors les propositions du gouvernement semblent pas si mal accueillies. Ça déclenche pas le tollé qu'on pourrait imaginer. Soutien, bon, évidemment, des organisations de santé. Critique tout de même sur les conséquences potentielles économiques. Certains s'inquiètent de voir les buralistes faire faillite les uns après les autres. forcément.
A priori, oui.
Et aussi du développement d'un marché parallèle. Forcément,
marché noir,
prohibition,
ouais.
Marché noir. D'autres pointent le fait que le gouvernement n'a pas tout simplement à s'immiscer à ce point dans la vie privée des Néo-Zélandais. En France, il y aurait quand même une autre donnée. Je ne sais pas quel niveau des taxes sur le tabac en Nouvelle-Zélande, mais en France, interdire le tabac, ce serait de se priver de 14 milliards d'euros pour le budget de l'État. Quand même. 14 milliards d'euros. L'année dernière, plus 10% recette fiscale sur le tabac avec l'augmentation des prix et l'augmentation de la consommation. C'est-à-dire sur le Figaro.fr ce matin, interdiction totale du tabac en Nouvelle-Zélande. Martin, on termine avec vous.
Et oui, direction la Chine ce matin, Sébastien, pour vous présenter l'ange du pont de Nankin, cet homme qui a sauvé plus de 400 vies, des hommes, des femmes désespérés qui passent le garde-fou du pont, avec l'idée d'en finir et qui croisent la route de cet ange gardien. Alors tout ça se passe à 70 mètres au-dessus du fleuve Yangtze, sur le pont de Nankin, donc chef-d'œuvre de la période maoïste, mais qui est depuis devenu célèbre pour un triste record, celui du plus grand nombre de suicides sur ce type d'ouvrage. Hein. Plus de 3000 depuis la fin des années 60.
Plus de 3000 suicides depuis la fin des années 60.
En un peu plus de 60 ans. Un record qui lui vaut un tout aussi triste surnom, le pont des suicidés.
Et donc pour lutter contre ces suicides, un homme a tenté de raisonner les plus fragiles.
Oui, il s'appelle Cheng Xi et tous les week-ends, depuis maintenant 18 ans, il arpente les 1500 mètres du pont à la recherche d'âmes en peine. Son objectif, les faire renoncer à leur sombre projet. Hein. Tout a commencé pour lui lorsqu'il avait 22 ans. Il croise par hasard une jeune femme prête à se jeter dans le vide. Chen entame la discussion et parvient à la convaincre de rester en vie. Depuis, cette femme, Chen a sauvé 411 autres vies selon son propre décompte. Des chagrins amoureux, des dettes, des accidents de vie. Tout le malheur des hommes qu'il a aussi fallu apprendre à supporter. Une mission quasi divine qui lui a valu ce surnom dans la presse locale. Hein. L'ange de Nankin, surnom qu'il rejette. Je ne suis pas un ange, j'essaye juste d'apporter un peu de lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. Aujourd'hui, Chen a toute une équipe pour l'accompagner. Des volontaires recrutés à la fac de psychologie à qui il transmet ses conseils. Il a aussi aménagé un petit dortoir dans le centre-ville pour accueillir ceux qui n'ont pas d'endroit où aller. L'ange du pont de Nankin, c'est-à-dire sur le site du Huffington Post.
Comment il s'y prend? Juste en leur parlant?
Juste en leur parlant. Alors, je n'ai pas assisté, mais et visiblement, c'est juste en leur parlant, en les écoutant aussi beaucoup.
Ouais.
En les écoutant, j'imagine. Écouter parler de leurs problèmes. Enfin, voilà.
400 vies sauvées pour
Chen
Xi sur ce pont. Sur ce pont de Nankin, 70 mètres au-dessus du fleuve Yangtze. Sur le Huffington Post. Merci à tous les deux, c'était le pressing du jour. Il est 5h23.